La musique.
Caravan à la maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain,
vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, dans la forêt de Sénart, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie d'accueillir à nouveau Meryl Hamp. Bonjour Meryl.
Bonjour Christophe.
Eh ben, ça fait parce qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps et on se disait mais ça fait quelques temps, ça fait pas très longtemps que tu es venu. Et en fait non, ça fait 4 ans.
Déjà,
ouais. 4 ans déjà, oh là là. Bon alors, depuis 4 ans, il s'est passé plein de choses dont on va parler. Mais peut-être il y a quelques auditeurs qui n'écoutaient pas il y a 4 ans.
C'est vrai.
Ben, peut-être. Donc je vais te reposer la question, traditionnelle question dans notre émission. Quelle a été ta formation musicale ou autre?
Ou autre.
Oui.
C'est toujours autre. Ben oui. À la base, moi je viens de la sculpture sur bois. J'ai fait une école des métiers d'art à l'école Boulle à Nation. Et en même temps, je suivais des cours de batterie. Un peu avant, je faisais du violoncelle. Donc on va dire que j'ai fait des choses étant adolescente. Mmh. Et la musique est arrivée un peu plus tard quand j'ai repris mes études aux Beaux-Arts de Cergy. C'est là où j'ai eu les outils, le temps aussi pour tester des choses. Parce qu'il y avait un studio, il y avait des micros. Et puis j'avais du temps pour expérimenter la piste sonore, on va dire, le volume sonore.
D'accord.
Et voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous expliciter les liens que tu fais ou entre tes pratiques de la sculpture et la création sonore? Puisque je te demande ça parce que j'ai beaucoup lu ça sur Internet, quoi.
Ouais, c'est vrai. Maintenant, en fait, vu que c'est sûr que là, depuis 4 ans, on va dire que ma démarche a toujours ce point de départ entre la sculpture, la matière et le son comme matière à sculpter. Bon, c'est vrai que maintenant, ça devient vraiment une expression, le son à sculpter.
Ouais.
Et du coup... maintenant je veux dire oui, c'est le son, ça m'intéresse parce que je le vois vraiment quelque chose de palpable et d'organique. Et ce que j'aime dans le son, c'est vraiment de retrouver l'épaisseur de, tu vois, par exemple du bois ou la rugosité ou la glaise, ouais. Et ces choses un peu même au niveau de la brique, de la pierre, des choses comme ça. Je vois plus le son comme matière vraiment visible, organique, que quelque chose de dans l'harmonique ou avec des notes, tu vois. Moi, je fais pas, enfin, même si j'ai fait des choses au conservatoire, je me suis vite détachée. Je fais un plus des arts plastiques. Du coup, moi, c'est plutôt du toucher, du visuel, quoi. Mmh. Voilà.
Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, techniquement presque, qu'est-ce que sculpter le son? Alors, moi, j'ai quelques notions pour dans cette émission. Je fais des montages, par exemple, tu vois. Donc, je vois bien ce que c'est qu'une onde, l'onde d'un son. Est-ce que c'est ça que tu travailles? Parce qu'on peut, il y a plein de techniques pour...
Oui, bien sûr. Après, quand on sculpte le son, c'est vraiment tailler. Par contre, moi, il y a des moments où j'essaye d'avoir justement une épaisseur d'une texture pour pouvoir justement la tailler, rentrer dedans. Donc, je vais accumuler, par exemple, des fréquences, des choses où même augmenter le gain, ça va gonfler le son. Et du coup, là, je vais pouvoir retailler dessus, dedans, quoi.
Ouais, ouais.
C'est plus ça. Et puis après, y a le rapport aussi avec les lives, les concerts en direct, les plans, les choses un peu physiques.
On va en reparler après. Ouais. Donc, c'est à l'aide de logiciels, on va dire, et de filtres, j'imagine, de pédales, peut-être.
Ouais. Après, là, de plus en plus, c'est vrai que j'ai des machines électroniques analogiques. Et donc, l'ordinateur, on va dire, lui, pour composer, si par exemple H, lui, c'est le support, l'ordinateur, j'enregistre des pistes et puis lui, il gobe ce que je lui donne. Et après, si j'ai envie de recomposer avec les pistes, je le fais. Mmh. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment avec les machines analogiques, les synthés, lecteurs cassettes ou les enregistrements que je fais. Et
Donc, tu fais aussi des... Tu te sers du micro?
Ouais,
le
aussi.
Le micro est un instrument pour toi. Ouais. J'ai oublié de dire qu'on a écouté H.
Oui, c'est vrai, on a écouté H, qui est issu de...
De ton album.
Le dernier, ouais, qui est sorti en mars, là, cette année, Residue of Time, et qui est sorti chez Scum Your Earth, Désolée si je le dis mal. Mmh. Excuse-moi, Michel. Mais donc, voilà, c'est la dernière piste de l'album.
Ouais. C'est le hit.
Apparemment. C'est ce que tu dis.
on y reviendra sur l'album. Mais continuons l'exploration de ton travail. Moi, je voudrais savoir si tu établis un lien synesthésique entre matière et son. Tu vois ce que c'est là.
Ouais. Bah, c'est. Au premier abord, moi, c'était pas trop mon truc. Je cherche pas forcément ça, en fait. Mais c'est vrai que. Bon, moi, après, c'est vrai que je vois le son, les matières comme des volumes, vraiment des formes un peu, soit un peu géométriques, mais plus des choses, ouais, de l'ordre de la géométrie ou des formes vraiment architecturales, quoi, des choses comme ça. Et du coup, c'est des intentions, c'est plus. Ouais. C'est plus comme ça que je vois le son comme à placer dans le temps et justement de le faire évoluer, de voir comment tu évolues dans une architecture sonore en fait. Et c'est peut-être abstrait là, mais
Bah oui, c'est abstrait. Oui. Est-ce que le marbre par exemple a un son particulier pour toi?
Après non, bah, je vais pas penser forcément au marbre, mais à des formes, tu vois, ou à des intentions, de temps en temps, bah, même j'essaie de travailler autour de, c'est pas des concepts, mais des intentions de comment matérialiser par exemple le vide ou différents switches au niveau des états, des choses qui génèrent un peu l'imagination, plutôt.
Ouais. Et alors, est-ce que tu continues la sculpture?
En tant que tel, je fais plutôt des installations sonores.
Ah oui.
Mais la sculpture pure sur bois et je fais plutôt du modelage, mais sculpture sur bois un peu moins. Après, pas mal de choses aussi en plâtre. Mais ouais, le temps passe et puis donc du coup, je me focalise sur d'autres choses.
J'ai lu que tu pratiquais, et sans bosser, hein, c'était la chronique d'un disque précédent dont on va parler après.
Ouais.
J'ai lu que tu pratiquais essentiellement ta musique en live. Ça m'a étonné, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité ça.
Bah, c'est sûr que y a beaucoup de choses que je. Enfin, moi, je vois plus. Je pense plus ma musique en live que pour, tu vois, le support. Physique, composition, écouter chez soi. Donc on va dire qu'il y a plus de travail qui se fait pour le live, et du coup il y a des choses, des espèces de mécanismes, des articulations au niveau des recherches de mon travail qui sont faites pour le live et puis après que je reprends pour la composition.
Ouais. Et alors, est-ce que tu t'intéresses aussi à l'environnement, enfin je veux dire le visuel, l'environnement visuel des concerts, tu vois? Justement ça, parce que j'ai vu une vidéo où il y avait des lumières, des néons.
Oui. Alors ça, c'est pas moi qui ai... C'était pour une soirée Supernova en 2016 à l'église Sainte-Mary. Et en effet, il y avait un ingé lumière. Donc ça, on va dire, la conception lumière, moi, j'y touche pas. C'est des propositions. Après, c'était pour tout le long de la soirée. Donc de toute façon...
Mais toi, t'as pas d'idée de ça de...
Après, normalement, oui, c'est plutôt sobre. Hein, c'est plutôt quelque chose de une lumière, on va dire, statique, voilà, intime plutôt.
Et alors, est-ce que t'as toujours en live, dans les lives, un souci de la spatialisation, tu vois, au niveau de la diffusion?
J'ai besoin de faire un peu de tests un peu avant. Après, pas beaucoup de temps, mais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin d'être dans l'enceinte de la diffusion, donc dans la fosse ou au même niveau que le public. Ça, c'est hyper important pour moi parce que, en fait, j'aime pas trop travailler avec les retours, donc je préfère être englobée. Donc voilà. Et après, selon les salles, je demande telle et telle configuration pour être bien englobée, être en immersion et avoir des basses.
Ouais.
Voilà.
Oui, effectivement. Je te vois pas, je t'ai jamais vu sur une scène surplombant.
Le... Au tout début, oui, les tout premiers concerts, ouais, parce que je connaissais pas encore, et puis j'étais en train d'apprendre comment c'était aussi d'être sur scène, et le besoin après, le côté immédiat d'être vraiment ancré, d'être au même niveau que le public, et aussi du sound system, c'est pour moi, parce que sinon je perds un peu mes repères.
Ouais.
Et des fois, j'ai dû me mettre sur des estrades ou des choses comme ça, et ça m'a un peu troublée au niveau de l'écoute. Mmh. Et je ressens moins, en fait, au niveau du corps. Et du coup, de temps en temps, ça peut être un peu de la bouillie. Ou, ah oui. Ça peut...
Alors, on va écouter Ananas. Et j'aimerais que tu nous parles de l'album Ma, dont extrait Ananas. Et je voudrais savoir ce que signifie le titre Ma. Et quelle était l'idée, le concept du disque, s'il y en a un?
Ouais. Alors, ma, en fait, en japonais, ça veut dire que c'est des intervalles de l'espace-temps. Ça regroupe l'espace, le temps, le vide. C'est un mot qui veut dire plusieurs choses en même temps. Et on a trouvé ça avec mon label, c'est Laurent de Tsukubuchi qui a trouvé ce... Ça n'a rien à voir avec mes initiales. Et ça s'écrit vraiment ma comme ça.
Mais c'est en quelle langue?
En japonais.
Ah ouais. Ouais.
Je ne sais pas si je l'avais dit. Japonais, ouais. Et du coup, il y a une définition, mais je ne la connais pas par cœur là comme ça. Mais en tout cas, c'est l'espace entre des intervalles, le temps, le vide et... voilà, et en fait, c'est un album en fait qui a été fait sur 2 ans et demi. En fait, j'ai composé, puis j'ai proposé à Laurent de Tsukubuchi ces 8 morceaux, et dont Ananas fait partie. Et voilà, donc. Et on voilà, c'est vraiment quelque chose de 2016 à 2018.
Ben, on écoute. C'était Ananas, extrait de l'album Ma de Meryl Hamp, qui est l'invité des Oreilles Libres sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Alors Meryl, parlons de composition. Comment procèdes-tu ? As-tu une trame en amont de ta pièce ? Ou est-ce que la création se fait au fur et à mesure de la progression de ton montage ? Et est-il juste de parler de montage ?
Waouh ! Là, c'est la partie où, en fait, ça dépend vraiment des moments, ah oui. Ou des besoins ou des envies, on va dire. En tout cas, enfin, pour une composition, c'est soit ça part de vraiment d'une idée, voilà, sur le moment, et je vais essayer de trouver des, enfin, moi, je travaille avec les mots, en fait, des choses qui me font penser à des matières ou des nécessités. Par exemple, si j'ai besoin de travailler sur le rythme, bah, je vais dire tel et tel rythme. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux de la basse ou est-ce que je veux que ça soit piquant ou est-ce que je veux que ça soit très lourd ou avec la distorsion ? Donc, je vais mettre des choses comme ça, des éléments comme ça. Et petit à petit, en fait, je vais chercher des sons avec grâce à ces mots. Et du coup, voilà, c'est plutôt des choses comme ça qui se montent petit à petit. Mmh. Après, ça peut être aussi des tests que je fais qui me plaisent, que je fais chez moi et je les enregistre et ensuite je les choisis, j'échantillonne ou tu vois, je coupe et puis je les compose. Donc ça peut être cette façon-là. Ouais. Sinon, après, bah, parfois, il y a aussi des fois, ça m'arrive d'enregistrer mes lives et de garder des parties de mes lives, de garder des choses ou le setup que j'ai fait pour un live, s'il me plaît vraiment, bah, là, je vais m'enregistrer, je vais vraiment faire quelque chose. Donc du coup, ça va faire entonnoir et du coup, je vais reprendre des éléments. Au lieu que ça fasse 30 minutes, et ben, je vais faire un zoom sur 10 minutes, tu vois, éléments qui m'ont plu dans le live, par exemple. Voilà, c'est plutôt comme ça.
Et sur le terme de montage, t'es d'accord avec ça ? C'est un montage ? Enfin, tu vois...
Oui, c'est sûr qu'il y a des montages. Après, ça peut être, comme je te dis, je m'enregistre un petit peu et puis ça peut aller assez vite au niveau du terme du montage ou être très laborieux aussi. Voilà.
Alors, je te posais cette question-là du montage parce que j'aimerais savoir, selon toi, ta pratique diffère-t-elle de la musique acousmatique, ce qu'on appelait à nous les vieux, la musique électro-acoustique, à jadis, on disait comme ça. Donc, un montage, traitement du son, tu vois.
Ouais. Au départ, oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé plus dans ce style-là, électro-acoustique. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait des concerts sur Acousmonium au tout début.
Ouais,
quand j'étais au conservatoire du 20e, en même temps que les Beaux-Arts, en fait, je suis passé par... oui, c'est vrai que je t'ai pas dit ça, mais oui, j'ai fait 3 ans au conservatoire du 20e où il y avait une classe, enfin un cours de composition assistée par ordinateur. Donc au moins, je pouvais voir comment ça se fabriquait un peu avec les logiciels. Et donc, le prof m'a donné des outils pour ça. Mais je me suis vite détachée, en fait, de la musique électroacoustique. Même si, de toute façon, moi, je pense que la base de la musique, c'est électroacoustique. Enfin, je veux dire, tu pars de sons réels, tu les transformes, ça devient ta matière. Et après, si tu as un synthé, tu as de l'argent. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à avoir des machines électroniques, enfin, analogiques. Du coup, c'était vraiment le micro qui était mon premier instrument. Et après, je le passais dans l'ordinateur qui avait des filtres. Et du coup, là, je faisais mon mix, ma tambouille, et c'est venu comme ça. Et donc, oui, il y a une part de montage, parce que de toute manière, je ne fais pas que du no. Enfin, du. Comment dire. J'enregistre pas directement de la table. Enfin, tu vois, j'ai besoin quand même de temps en temps de voir ce que je fais et de choisir les éléments et de les couper, de les zoomer, de rentrer dedans. Et justement, c'est ça qui me permet de mieux tailler, quoi, aussi.
Et alors, là, une des caractéristiques, moi, je me souviens, j'ai lu des livres de Pierre Schaeffer, tout ça, qui expliquait que la matière dont vous disposez dans la musique électroacoustique est plus... est plus étendue et plus variée, plus riche presque que ce dont dispose un compositeur de musique classique ou de jazz. Tu vois.
Ouais, oui, c'est parce que là, pour le coup, tes outils sont multipliés. Ouais. Du coup, mais tu peux faire aussi bien. Si tu as trop d'outils, parfois, tu peux vraiment te dévier de ton truc ou faire des choses pas intéressantes. Donc, du coup, laisse-y se mort, quoi.
Et alors, j'ai l'impression que ta pratique aussi diffère de d'autres pratiques de musiciens comparables, on va dire, ou de musiciennes comparables. Il me semble que tu n'es pas effrayé par le rythme. Tu en parlais.
Ouais, ben, en fait, c'est un peu le message, un peu ce qui annonce H, finalement,
ben oui.
Ou même Ananas. C'est vrai que les choses un peu pulsées, on va dire que ça, c'est des choses qui m'intéressent. Enfin, en tout cas, c'est une piste qui m'intéresse énormément, que j'ai pas totalement, de toute façon, ça, c'est sûr, exploité. Et c'est sûr que je vais le faire d'ici peu de temps.
Ah, très bien.
Normalement.
Oui. Oh là là. On va danser alors.
Non, ouais, mais.
Prochaine fois qu'on danse, on danse.
Bah, tu vois, dans H, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Le dernier morceau de l'album. Et donc, en fait, ça annonce un peu les choses où j'aimerais bien aller dans la direction. Donc,
très bien, très bien. Alors, je voudrais savoir si tu as un corpus de sons que tu utilises en général ou que tu choisis pour telle œuvre, pour tel disque, par exemple, ou pour tel. Pour telle pièce, ou quand tu vas dans une pièce, est-ce que tu es libre d'utiliser n'importe quoi, tout ce qui est disponible, tout ce dont tu as envie. Autrement dit, est-ce que tu te fixes des contraintes ou des restrictions, tu vois, pour un projet tel.
Ouais, ouais. Bah, en fait, quand tu me parles de projet, ça, tout dépend en fait du projet, ça c'est sûr. Je réfléchis en même temps, mais en effet, c'est ça dépend vraiment du projet dans lequel j'ai envie de m'embarquer.
Ouais.
Du coup, il y a des moments où voilà, je vais me dire, je vais encore parler de rythme ou de matière, d'idées, et je vais dire, bah là, je vais avoir j'ai besoin d'harmonique ou de choses rugueuses ou qui incise du coup bah je vais utiliser tel et tel appareil et puis après si j'ai envie de son beaucoup plus avec des réverbes ou je sais pas ben je vais me dire tiens là je vais utiliser ça mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de dire bon bah là je veux faire une composition seulement avec mon micro et une cymbale par exemple là il y a dans par exemple Residue of Time il y a un morceau qui s'appelle Dendro et là c'est vraiment il y a quasiment rien en fait c'est juste un field recording d'une machine un ventilateur et une cymbale que je maltraite et que je distorde et en fait il y a quasiment rien du tout c'est à dire que j'ai quasiment que deux éléments en fait du coup ça c'est des choses qui me permettent aussi de quand la limite est là parfois ça te permet justement de travailler un peu plus sur tel et tel axe
ouais.
Et c'est pas mal n'empêche aussi de se mettre des contraintes parce que au moins on voit aussi comment on peut réagir à ça, quoi.
Ouais. Alors, dans certaines de tes pièces, et notamment dans Residues of Time, certains des sons que tu utilises peuvent apparaître rugueux. Tu as utilisé le mot rugueux, voire d'une écoute pas forcément agréable, tu vois.
Ouais.
Et je voudrais savoir quel est ton rapport justement au joli, au beau.
Ah ouais, ça c'est compliqué.
Ah oui.
Je pense pas du tout à ça.
Bah oui.
Non. Moi, je pense juste à ressentir des choses, en fait. Et après, tu t'approches ou t'en éloignes. Je pense que ça, c'est fait pour, en fait, l'écoute. Tu peux, à un moment donné, ne pas du tout aimer un moment d'une composition et revenir 10 jours après dessus et dire « Ah tiens, mais en fait, là, j'aime bien. » Parce que ça dépend de ta disposition du jour, j'imagine. Mais c'est vrai que moi, bon, ben, moi, c'est pour parler... au corps, enfin c'est pour ressentir des choses quoi que je fais. C'est il y a le visuel, mais le visuel c'est l'imagination de ton ressenti qui va te donner du joli ou pas. Je donne pas de mode d'emploi, donc du coup.
Bah heureusement.
Enfin, mais c'est pour ça que je veux pas dire que j'essaie de faire des choses jolies ou pas, parce que sinon ça serait compliqué.
Tu vois ce que je voulais dire par rapport à des sons qui peuvent paraître presque agressifs.
Ouais. Parce que parfois, y a des choses agressives, mais qui peuvent être. Qui peuvent même te soutenir, limite faire du bien, ou tu vois. Parce que, n'empêche, même quand il y a des moments, c'est rugueux et ça fait mal, je reste pas non plus trop longtemps. Tu vois, je suis pas non plus à martyriser les choses.
on va écouter. Alors, je voulais te demander un exemple concret dans la pièce qu'on va écouter, Residues of Time 1. J'aurais voulu que tu nous dises les sons que tu utilisais, enfin, s'il y avait des sons enregistrés, concrets, ou peut-être, je sais pas si tu t'en rappelles, ou on en parle après.
On en parle après.
Très bien, on écoute alors.
Merci.
Residues of Time 1. C'est donc qui est le premier morceau de l'album.
De Residues of Time.
Voilà.
De la cassette. Ouais.
Oui. Thank you. Voilà, c'était Residues of Time 1, première partie, de Meryl Hamp. Alors Meryl, est-ce que tu peux, maintenant qu'on a écouté le morceau, nous donner des exemples de sons que tu as utilisés dans cette composition ?
Alors, il y a, pour commencer, bah, c'est pas mal de sons de synthé analogique, ouais. De distorsion aussi avec la table de mixage. Donc il y a plusieurs synthés. Et ensuite, il y a aussi une voix qui apparaît. Et ouais. Cette voix-là, en fait, ça vient d'un lecteur cassette d'un répondeur. Donc que j'ai retraité et puis voilà donc il y a quelques petits éléments comme ça qui ressurgit un peu concret, mais là c'est vrai que cette composition là elle est vraiment faite à la base de d'électronique.
D'accord. Et les voix tu les utilises c'est souvent ça, j'ai pas l'impression.
Non, c'est vrai que c'est ça m'est déjà arrivé d'utiliser des voix, mais on les reconnaît pas forcément, donc coup, on va dire que c'est encore une chose. C'est j'aime bien aussi trouver des éléments de mon quotidien, de vraiment plus de mon quotidien, mais de mes choses, enfin des choses vraiment personnelles, on va dire, mais de mes cassettes enregistrées quand j'étais petite ou des choses comme ça, et que j'enregistre, enfin que je récupère et après que je découpe, on va dire, et que je réintègre. Ouais. C'est un support et après je gonfle, puis je les maltraite et puis après ça devient autre chose. Mais parce que c'est vrai, de temps en temps je maltraite un peu le son dans le sens où j'aime bien quand ça devient autre chose. Ouais. J'aime bien aussi utiliser un son parce que tu vois j'arrive à me projeter dedans ou parce que il me stimule. Tu vois, c'est surtout ça en fait.
Et alors pourquoi ce titre Residues of Time, résidu du temps ?
Ouais, bah parce que en fait c'était une un peu avant de faire de contacter le label, je voulais avoir au moins une ou deux pistes avant de me mettre en route pour ce nouvel album. Et donc Michel de Scum m'a dit ok, et du coup je n'ai pas proposé tout de suite ce titre là mais en fait pour moi j'avais besoin de travailler sur les choses en fait qu'on laisse derrière, tu vois, les résidus, les choses que et du coup en fait je me suis dit ben voilà, il y a quelques années qui se sont passées, là c'est, on va dire que cet album là résidu c'est un peu le résultat de un an et demi de recherche. Ah oui. Et du coup voilà, et j'ai récupéré aussi des choses que j'ai réintégrées dedans, donc c'est les résidus qui restent, et puis c'est aussi le temps qui passe. Il y a des, après c'est un peu métaphorique, mais dans le temps il y a des résidus, et voilà, j'avais envie de jouer avec ce mot. Après ça, je veux pas non plus être dans le concept total, mais
c'est justement ma question. Alors en dehors de cette histoire de résidus dans le temps, est-ce qu'il y a un concept, une idée que tu as voulu travailler sur l'album ou une histoire que tu racontes dans le disque?
En tout cas, j'avais envie qu'il y ait vraiment. Donc, il y a dans cette cassette, enfin dans cet album, il y a trois parties. Il y a Residu of Time 1, 2, 3. Ouais. Et ça, on va dire, c'est comme un continuum, même si dans l'album, c'est séparé. Mais ça, c'est vraiment une idée. Voilà, commune. Enfin, c'est quelque chose de. Voilà, c'est comme un bloc. Après, je les ai séparés pour pouvoir les écouter facilement. Parce que chacune dure au moins entre 7 minutes et 9 minutes, je crois, chaque compo. Et ensuite, on a d'autres compositions qui viennent par-dessus. Il y a Dentro autour du lac et H. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont un peu splittées. Enfin, qui sont.
Qui
donne autre chose. Mmh. Parce que voilà, ça fait partie aussi de ma recherche depuis un an et demi. Et on va dire, voilà, j'avais besoin de que ça soit, qu'il y ait un lien quand même, qu'il y ait quelque chose.
Un lien.
Voilà.
Et ces trois les trois parties de Residue of Time, 1, 2, 3, est-ce qu'il convient de les écouter dans l'ordre 1, 2, 3 à la suite?
Ouais. Ah, à oui. La base, ouais.
Mais oui, et pourquoi tu les as pas mis dans cet ordre? Parce que je crois qu'ils sont sur le disque, ils sont même pas dans le...
Oui, c'est, dans bah, c'est parce que c'est, voilà, c'est pour torturer l'auditeur.
Très bien. Très bien, c'est très bien.
Mais ça ne t'empêche pas.
Mais oui, mais c'est ce que je.
Après, oui, c'est vrai qu'en format numérique, oui, sur Bandcamp, c'est comme ça. Mais ouais. Si tu le télécharges, après, bon, bah, tu le mets comme tu veux, c'est sûr.
Alors, peux-tu nous parler du label sur lequel est sorti le disque et comment s'est fait la connexion avec eux?
Alors, donc, avec eux, oui, parce qu'ils sont deux. Joseph. Et Michel. Et du coup, moi, c'est Michel que j'ai rencontré, je crois, en premier, lors d'un concert. Voilà, la connexion s'est faite. Et puis un jour, je lui ai envoyé un mail. Mmh. J'étais. Donc, c'était fin 2019, il me semble. Enfin, non. Plutôt, on va dire, en août ouais, 2019. Et puis, il m'a dit, OK, propose-moi des choses. Et je lui ai proposé deux morceaux. Il m'a dit, OK. Et lui, bon, il était assez content qu'on commence à faire quelque chose ensemble. Et, enfin, dans le sens où, voilà, il y avait de l'enthousiasme de sa part. Donc, ça m'a vraiment motivée à faire quelque chose de bien. Et ce qui était agréable aussi, c'est qu'on a vraiment une communication tous les deux de, voilà, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, ouais, voilà, il y a vraiment ce lien. Ouais. Et du coup, même, ça allait même jusqu'à la cassette, à l'édition, tu vois, même le nom des titres, des compos et de l'album. Donc j'ai beaucoup aimé en fait ce truc-là.
Tu peux redire le nom de ce label?
Scum Yours Earth.
Ouais, je préfère que ce soit toi.
Parce que je... Oui, c'est un...
J'ai du mal en anglais, moi. Et alors, tu l'as dit à plusieurs reprises, il s'agit effectivement d'une cassette où le disque sort en cassette ou en numérique. Mais j'ai pas l'impression qu'il sorte ni en CD ni en vinyle. Pourquoi ce choix?
Ah, pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, avec Scum, c'est que en cassette.
Ouais, d'accord.
Voilà. Et puis ben voilà, ça sera comme ça. Après, il existe en format donc digital, oui, sur Bandcamp, ouais, ouais. Numérique. Ouais. Et pourquoi ce choix? Bon, parce que ouais, c'est bah, déjà je voulais éditer quelque chose de physique, et pour un vinyle, ben on verra avec quel label. Voilà, parce que c'est toujours les trucs de moyens, d'économie.
D'accord. Ouais. Et tu as l'air attaché aux cassettes parce que tu parles des cassettes de ton enfance. Enfin
C'est vrai que ce support-là, ouais. Au départ, j'y faisais pas forcément attention pour être édité sur une cassette. Mais en effet, ouais, c'est ma génération. En fait. Quand j'avais 5 ans, j'en avais. Ouais. Je m'enregistrais en train de chanter ou faire des trucs comme tout le monde.
Aussi.
Hein.
Moi aussi, on n'est pas de la même génération.
Ouais, mais. Ouais. Bah, oui, c'est vrai qu'on n'est pas de la même génération, mais bon. Mais en même temps, la cassette, elle existe depuis. Et moi, je trouve que c'est très beau en plus à manipuler. J'aime bien. Je sais pas. Il y a quelque chose de très ludique, de spontané et de direct en fait. Donc du coup, bon, voilà. J'aime bien moi le côté immédiat. Et puis il y a ce grain aussi qui m'intéresse. Après, oui, bon, bah, vinyle, ça serait pas mal un jour, oui.
Ouais,
mais bon. J'y pense, mais faut que. Voilà.
Bon, bah, je propose qu'on écoute un autre extrait de cet album, ce sera le dernier. Residue of Time 3, comme ça, il manquera le 2, les auditeurs n'auront qu'à.
Voilà. à chercher sur Bandcamp.
Voilà. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne. Partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Et vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Meryl Hamp. Alors Meryl, tout à fait autre chose. J'aimerais savoir, tu es allé en Amérique du Sud, au Mexique, en Argentine, me semble-t-il. Qu'es-tu allé faire là-bas ?
Donc, ces derniers mois, oui, j'ai été... Alors, je vais commencer par l'Argentine. Donc, c'était en septembre dernier, en 2019. J'avais, en fait, une proposition pour une tournée pour aller jouer donc, en Argentine. Ça commençait par Buenos Aires, Cordoba et Rosario. Ensuite, aller en Uruguay à Montevideo. Ouais. Et ça, c'était par une proposition en fait, de jouer aussi dans un festival qui s'appelle Escuchar. C'est dans un musée en fait, d'art moderne. Et ils ont une programmation chaque année autour de la musique expérimentale, enfin électronique. Et du coup... on m'a proposé aussi de faire cette tournée et par la suite aussi de faire des workshops dans des universités ou dans des conservatoires autour du son, mais plutôt moi j'avais proposé des choses sur l'improvisation. Et ça c'était la proposition, donc j'y suis allée à peu près un mois et demi. Et ensuite, dernièrement, le Mexique. C'était en février. Je suis déjà allée plusieurs fois au Mexique, ouais, pour des projets personnels ou pour mes études. Et du coup, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ouais. Et là, j'y suis allée notamment parce que je devais jouer avec un Argentin qui habite en France, qui s'appelle Diego Loza. Et on avait un projet de duo, un projet, on va dire, de jouer à deux pour aller au Mexique. En fait, on a eu deux dates en fait, pour aller jouer à Mexico et à Morelia. Et du coup, c'était un duo où on spatialisait, il spatialisait ce que j'étais en train de faire, il retraitait ce que j'étais en train de faire. Et avec moi, j'avais une cymbale, il y avait un peu de voix. Et après, lui, il était dans la partie spatialisation et la musique plus concrète, lui, on va dire plus électro-acoustique, vraiment pure. Ouais. Avec des sons vraiment de la ville, des choses de la ville de Mexico ou de Morelia qu'on retraitait avec par-dessus, avec moi, avec ma partie beaucoup plus brutiste, noise. Ouais. Voilà.
Et alors du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe là-bas en Amérique du Sud au niveau des musiques expérimentales ? Est-ce que tu as eu des liens avec les scènes locales ?
Oui. Alors pendant ce premier voyage en Argentine, pour moi, j'ai vu qu'il y avait, en tout cas c'est en Argentine, il y a une scène, mais c'est surtout à Buenos Aires, à Montevideo, en Uruguay aussi, il y a un intérêt pour l'art sonore, on va dire, pour l'art numérique, le traitement du son par le numérique. Ils aiment beaucoup aussi le live coding, par exemple. Mais sinon... il y a beaucoup de choses sur l'improvisation donc qui sont pas du tout à la traîne. Et donc il y a une scène, une belle scène. Et ensuite, au Mexique, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça aussi. Et donc j'ai pu rencontrer dans mes précédents voyages en 2013 et en 2017 des personnes de la scène et de la musique XP ou Noise... expérimentale, performance. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un beau vivier, un beau terreau. Il y a des gens qui sont assez intéressants. Ouais. Donc du coup, même au niveau du monde de la radio, il y a pas mal de choses qui se font.
On espère que ça arrivera par chez nous, un de ces jours.
Et ouais.
Si un jour il y a des sous dans la culture.
Oui, c'est surtout ça. Ouais.
Bah oui. Et alors, tu t'es rapproché du collectif Coax, notamment pour... Alors là, on revient un petit peu en arrière. Hein, notamment pour Tribalisme.
Ouais.
Peux-tu nous parler de ce spectacle ? Et j'aimerais savoir si tu avais des consignes. Est-ce que c'était écrit ? Comment c'était conçu ?
Et donc là, tu me demandes... parce que c'était déjà il y a un moment. Donc c'était une invitation de Yann Joussin. le batteur du collectif Coax. Il y avait Julien Després, Simon Enoch et Antoine Viard.
Isabelle Sorling.
Comment ?
Isabelle Sorling au chant.
Oui, aussi. Et puis d'autres.
Il y avait des danseurs.
Oui. J'en oublie là, je sais, mais parce que bon, tu m'as pris court, bien
Olivier
sûr.
Olivier Sémama à la base, mais attends, j'étais là, je me souviens.
Voilà.
Je crois qu'on a dit tout le monde. Hein.
Ouais, non, Olivia, oui, c'est ça.
Olivia.
Ouais, Olivia. Ah, et il y avait trois danseurs.
Voilà, trois danseurs.
Et en fait, on avait quelques jours de résidence, enfin deux bonnes semaines en fait, réparties dans l'année. Et du coup, on a fait c'était autour vraiment du côté de groupe, le côté vraiment de jouer en groupe ou en duo. Donc bon, le mot tribalisme regroupe bien un peu ce qu'on a voulu faire, on a tenté faire, enfin ce qu'a voulu proposer Yann, parce que c'est vraiment une création de Yann. Mmh. Et nous, on a amené nos ingrédients. Donc il y avait le pôle, on va dire, électronique avec Simon, le pôle plus guitare qui se répondait. Donc on essayait d'avoir vraiment des mouvements comme ça de réponse, parce que c'était vraiment un cercle.
Ouais.
Et le public au milieu avec les danseurs, il y avait aussi un jeu de lumière qui faisait des temps ou des moments comme ça de regroupement ou des petites capsules, et c'était entre quelque chose de groovy, quelque chose de voilà qui t'en bref, parce que c'est vrai que ça donnait envie de danser, bien sûr, avec la batterie et les autres œufs et tout ça. Mmh. Et voilà, c'était.
Et alors, moi je me souviens. Tu en as parlé tout à l'heure de la cymbale. Et je me souviens que
j'avais une cymbale.
Tu avais ta cymbale. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec cette cymbale ? Est-ce que c'était ta principale source sonore ?
C'était ma deuxième source. En fait, j'avais deux synthés électroniques.
Ouais.
Et puis ensuite. Il y avait cette cymbale que je retraitais. En fait, elle me permettait de jouer à des moments bien précis avec le reste du groupe.
Mmh.
Mais sinon, nous, on était avec Simon plus dans le pôle vraiment matière électronique, synthétique.
Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres expériences dans des groupes. Est-ce que tu as joué avec des groupes ? Moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de te voir en solo ou alors dans des duos, par exemple, improvisés.
Mmh.
Et je voudrais savoir si tu es attiré par un travail comme ça de groupe collectif ?
Ouais, moi j'aime beaucoup, en tout cas, l'expérience avec Yann et le groupe, ça m'a beaucoup plu. Après là, c'est un gros format, donc on n'a pas forcément repris, mais. En tout cas, oui, j'ai déjà essayé des choses en duo. Là, il y a des choses qui sont en train de se faire actuellement avec Violaine Lochu et Blanche Lafuente.
Oh.
Voilà, c'est une.
C'est un scoop.
Ah, oui, c'est un scoop.
Ah, génial.
On aime les scoops.
Ah bah oui.
Et voilà, en fait. Avec les Violaine et Blanche, en fait, le 21 décembre 2019, on a fait une impro pour l'événement qu'avait fait proposé Sonic Protest, Coax et Les Instants Chavirés, pardon.
Ouais.
Du coup, en fait, il y avait une sorte de tombola et nous, on s'est retrouvés à jouer toutes les trois. Une impro totale.
Et
on
ne
savait pas qu'on allait jouer par hasard, tu vois.
Ah, okay.
Et du coup. On a joué 20 minutes et puis là, ça nous a donné envie de se retrouver éventuellement un jour. Et on a réussi à post-confinement, à trouver 3 jours aux instants. Donc on a essayé de trouver des choses ensemble. Hein. Et donc on va voir, on va essayer de trouver des dates. Déjà des répètes, ça serait pas mal.
Ouais.
Mais en effet, il y a quelque chose. Il y a un trio qui est en train qui est en état embryonnaire. Donc c'est un scoop, mais on va voir où est-ce qu'on va aller.
Ouais.
Hein, mais voilà. Donc oui, ça m'intéresse de jouer avec des gens. Mais sauf que voilà, ma pratique, mon travail me prend énormément de temps. Donc c'est sûr que je peux pas tout le temps travailler avec des autres, mais il y a eu des tentatives de duo.
D'accord. Voilà. Bon, bah, on a des bonnes
je
nouvelles.
Ne dis pas tout, je ne dis pas tout. Je ne peux pas tout dévoiler parce que... Voilà.
Tu nous le diras en
antenne. On verra.
On verra. Dans l'oreille libre.
Mais bien.
Mais bien, ça. Alors, tu as également participé à la soirée Coarfix. Donc, tu es un peu associé désormais à Coax, j'ai l'impression. Y a-t-il d'autres collaborations prévues dans ce cadre-là avec ces talentueux musiciens?
Pour le moment, je ne sais pas. Là, actuellement, en tout cas, il y a des choses qui se passent avec le Coax et Sonic Protest et Les Instants, avec Recontact, Zone de Silence.
Mais tu peux l'annoncer, oui.
C'est aujourd'hui et demain, oui. Il me semble.
Donc c'est à Montreuil.
C'est à Montreuil. Ça reste vraiment dans le... ces trois jours et c'est plutôt en journée jusqu'à 21h, donc il y a des choses à voir et enfin surtout à écouter. Donc c'est Zone de Silence .org. Et du coup, pour le moment, moi je n'ai pas de projet forcément avec Coax. On verra comment les choses se passent plus tard. Et j'ai des choses pour la rentrée, mais
on en reparlera.
Donc. Voilà.
Et alors, un des derniers concerts que j'ai eu, moi, avant le confinement, c'était à Sonic Protest. Et la première partie de cette soirée, il y avait la restitution d'un atelier que tu avais mené.
Ah oui.
Et j'aimerais bien savoir comment tu as abordé cet atelier et comment tu abordes, parce que tu as parlé en Amérique du Sud aussi, que tu faisais des workshops. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux stagiaires, aux étudiants?
Aux étudiants. Là, en fait... Pour ce cas-là, en fait, vu que on avait quand même la pression, la date, la restitution date pour Sonic Protest, donc du coup, déjà les étudiants étaient déjà dès le départ un peu stressés.
Ah oui.
Mais là, pour le coup, j'arrive, on va dire, avec une idée commune pour que, en fait, les étudiants, quand ils se rencontrent, parce que souvent, ils sont pas forcément dans la même au même niveau, la même classe. Je veux pas dire au même niveau de musique,
Ça.
Oui. Mais en tout cas, ce que je propose, c'est qu'ils viennent avec une intention, une envie de faire du son. Et ensuite, voilà, je les dirige sur un thème. Et donc là, c'était autour de changement d'état, autour du vide. Comment matérialiser du vide? Ça, c'est quelque chose que j'aime travailler à la base. Donc là, j'ai essayé des choses. Ils viennent d'univers d'esthétique de musique différentes. Et c'est vraiment regrouper ça et de voir comment ils peuvent communiquer. Et du coup, là, c'est essayer de les... à cette écoute, je leur demande d'être à l'écoute et limite de t'entendre de se taire parce que t'entends, il y en a qui arrivent avec tout leur barza, tu vois. Et justement, non, vu que c'est chacun est une voix, ils sont pas. J'essaie de leur dire, voilà, toi tu vas faire éventuellement tel et tel son parce que dans quoi tu te sens le mieux. Et donc il y a toujours cette phase de discussion et voilà, ils font des propositions, mais déjà, c'est en les dirigeant. Et finalement, je les dirige pas comme un chef d'orchestre, c'est pas du tout ça. Je leur propose quelque chose et on voit ce qui se dévoile et après je les dirige. Là, il faudrait peut-être atténuer à tel moment. Et puis après ils s'écoutent et puis après ils sont dedans et c'est eux après qui m'exposent les oreilles et je suis bien contente et surtout c'est qu'ils prennent leurs pieds quoi.
Ça va aller en tout cas.
Ouais.
Ça va aller assez content.
Ouais, ils étaient contents.
Et alors, on va écouter les deux derniers morceaux qu'on va écouter. Ils sont datés de juin 2020, donc j'aimerais bien que tu nous en parles. À commencer par celui qu'on va écouter maintenant, Comme Langue.
Alors, Comme Langue, c'est post-confinement. C'est un peu comme une extension de H. Enfin, c'est la partie rythmique qui est encore abordée. J'ai testé des choses, des nouvelles choses là, parce que je me suis comme tout le monde occupé. Hein, donc du coup, Et puis il y a eu ces multi-tests et ça a donné Comme Langue. Je l'ai appelé comme ça parce que j'avais envie de parler de choses, ramène-toi, viens, parce qu'elle est assez un peu énergique. Mmh. Et du coup, Elle, c'est un mélange vraiment entre le côté latent et pulsé. Voilà.
Eh ben, Patricia Comolong. Alors Meryl, comment tu en as un petit peu, tu l'as évoqué un petit peu, mais j'aimerais savoir plus avant, comment as-tu vécu le confinement et que penses-tu de la situation actuelle, la raréfaction des concerts, les concerts en ligne, tout ça, où va-t-on Meryl?
Oh là là, si j'avais la réponse, bah, je crois que je n'ai même pas envie d'avoir la réponse, mais où va-t-on
le confinement,
le confinement Je pense que je l'ai vécu un peu. Personnellement, au début, c'était vraiment pas facile du tout.
Ah ouais.
Voilà. Parce que changement de rythme. On doit se reconstruire un peu notre quotidien, on va dire, et une sorte de flottement, quoi. Avec toutes ces dates ou les projets qui tombent, bien sûr, à l'eau. Tu te dis, il y a les copains, t'es pas toute seule qui a. Donc, c'est ennuyeux. Et du coup, non, c'est vrai que la première quinzaine, ça n'a pas été le top du top, mais. Après, je me suis dit, essaye quand même de faire des choses tous les jours pour être bien, être dans la joie, essayer de vivre le moment présent le mieux possible. Et puis après, se dire que c'est pas non plus catastrophique. Et des choses. Donc j'ai essayé de maintenir quelque chose de positif. Je faisais des bidouilles, des choses que j'avais vraiment pas le temps de faire d'habitude. Donc
Ça a été une période créative au final ou pas ?
Au final, je dirais oui et non. Mais on va dire que ça m'a permis surtout de tester des choses. Au niveau d'appareils que je connaissais plus ou moins, et puis de prendre le temps aussi.
Et alors, je parlais du dernier concert que j'avais vu, moi, avant le confinement, qui était... est-ce que ton concert a pu avoir lieu à Sonic Protest ?
Oui.
Parce que c'était tout juste,
alors, c'était tout juste. En fait, ils l'ont maintenu. En revanche, j'ai joué pour la première fois dans des conditions où, en fait, il n'y avait quasiment pas de public.
Ah, ouais, d'accord.
Il y avait... il a été streamé, en fait. Ils ont gardé... ils ont dit, on garde cette soirée-là.
C'est le samedi.
C'était le vendredi soir.
Ah, c'est le vendredi.
Ouais. Ouais. Le 13. Vendredi 13, comme par hasard. Et oui. Du coup, j'ai joué avec un public totalement restreint parce que, en effet, heureusement, il y avait, de toute manière, j'étais quand même assez abasourdi, et l'équipe aussi, mais il y avait donc les membres du théâtre de l'Échangeur et de Sonic Protest. Et voilà, on était à 90, même pas. Et oui. Donc voilà, ça c'était le dernier concert.
C'est le lendemain, en fait, effectivement.
Oui, qu'on ne pouvait plus du tout.
C'est le samedi qu'il n'y avait plus droit. Ouais. Et alors, autre chose, tout à fait autre chose, j'ai vu que tu as collaboré avec d'autres médiums, la danse, le cinéma. Et je voudrais savoir comment ça se passe, en fait. Est-ce que tu as un cahier des charges, tout ça? Et comment tu fais le choix de tes matières sonores? Puisque là, tu ne fais pas selon ta créativité, tu fais selon... j'imagine.
Oui, les besoins du réalisateur, du chorégraphe.
Hein. Ouais,
c'est vrai que je travaille aussi pour le spectacle vivant. J'ai travaillé pour Mélanie Perrier. Et puis, après, j'ai fait plus des choses dans le domaine de la performance, on va dire, où j'ai accompagné des danseurs. Il y avait Josefina Camus et puis Gabriel Dumentel il y a un certain temps. Mais après, pour les films, c'était plutôt des courts-métrages. Ouais. Aussi ça, en fait, je vois ça avec le réalisateur, ce qu'il a, ses besoins, en fait. Et après, c'est vraiment des choses là où des ambiances. C'est de travailler beaucoup plus d'ambiance et des choses aussi avec de la mélodie. Alors là, pour le coup, ça, c'est sûr que ça ressemble pas à mes lives parce que je veux pas, ou à mes compositions perso, vraiment. Là, je m'adapte à un format, un temps, à un rythme du film. Du coup, je garde toujours la batterie, la cymbale. J'aime bien accorder ça, enfin la mettre dedans en tout cas. Et puis. Après, avec ces matières électroniques, c'est selon l'image que je vois, le besoin et puis l'univers du film, quoi, qui m'inspire pour créer aussi.
Ouais. Et tu as des projets là, à venir de collaboration avec d'autres...
Alors, donc, il y a Be My Ghost. Donc, c'est le nom que, pour le trio avec Violaine Lochu et Blanche Fuente. Ensuite, des collaborations. Il y a des choses en stand-by, j'espère que je vais pouvoir les reprendre, mais je ne les nomme pas encore. Après, pour les concerts, bientôt, il y a le concert dispersé, qui c'est dans le Lot, et ça c'est Arnaud Rivière et Yann Le Guay qui organise ça. C'est des concerts, en fait. Je ne sais pas si je vais très bien expliquer, parce que c'est la première fois que je vais y aller, mais en fait... À la base, c'est des concerts itinérants dans une partie, dans un bois. Il y a des endroits, donc les gens vont faire des choses dispersées dans la région, mais il faut avoir une voiture.
Ah, ouais.
Après, c'est pas non plus trop. Enfin, il y a des points d'accès. Hein, c'est pas non plus on va faire 100 km ou quoi.
Hein,
mais, donc ça, il y a ça.
C'est quand ça?
Du 9 au 15 août.
Ah ouais.
Et puis après, il y aura des choses à la rentrée. Alors, j'espère qu'on ne sera pas reconfiné, mais...
Eh oui.
Voilà.
C'est vrai qu'il faut porter le masque.
Voilà, il faut porter le masque.
Bah oui.
Se laver les mains, surtout, je pense.
Ah oui. Ah, oui.
Mais ça... bon. Non, mais bon, après, oui. Non, j'espère que oui, les choses à venir. Et il y a aussi un autre scoop.
Ah.
Donc là aussi, on croise les doigts. Je prépare une tournée avec Terrine et Chica Loyo.
Ah.
Voilà. Et donc ça, c'est pour octobre. Une petite tournée en France, plutôt dans l'ouest de la France, là, pour le moment. Et donc, on verra comment ça se goupille en fonction des... Parce que là, c'est vrai que les endroits sont un peu frileux.
Bah oui,
enfin, c'est normal, ils ne peuvent pas...
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment
Des
doutes.
Et alors tout ça sera annoncé sur ton site, j'imagine que tu le tiens
un
jour.
Oui, bien sûr, je le tiens un jour.
Bah oui.
Donc du coup, sur mon site, c'est merylamp.com.
Ouais.
Et là, je tiens un jour. Donc en fait, après, je vais faire un concert à Marseille pour un festival qui s'appelle Manifesta, pour le projet Orlando. Et ensuite, il y a aussi, je vais présenter au GMEM de Marseille,
ouais,
une installation, parce que je vais être en résidence en novembre sur la Lucha Libre, une installation sonore sur le catch mexicain, Lucha Libre.
Ouais.
Et donc là, c'est son et lumière, c'est une installation sonore immersive. Voilà, donc ça sera visible pour, on va dire, une sortie de résidence. Mais sinon, la vraie de vraie, c'est en février prochain au manège de Reims.
Ah, très bien.
Voilà. Et du coup, voilà.
Eh ben, on va. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non.
Eh bien, on va se quitter, Meryl. Alors, peut-être tu pourrais nous parler du dernier morceau qu'on va écouter.
Oui, si alors. non, mais je sais pas si j'ai envie de parler de ce morceau, mais...
On va l'écouter. Dis-nous son nom, si a-t-il un nom.
Alors, ce que je t'ai envoyé, c'est un test. Donc, c'est V4 parce que c'est la version 4.
Ah oui, d'accord.
Hein, donc, test, Bring It. Donc, le titre va sûrement changer. Hein.
Bon.
C'est une on l'a déjà entendu au collectif ODL pour le 21 juin. Il m'avait demandé d'envoyer des morceaux, donc ça a déjà été entendu quelque part. Et en fait, ça c'est une compo assez radicale, avec très peu d'électronique, justement. C'est micro HF, un peu de batterie. Et de la voix.
C'est toi qui joues la batterie ?
Voilà.
Ouais. Et alors, est-ce que... Parce que tu nous as quand même dit que H, le premier morceau qu'on a écouté, était le...
L'annonciateur.
L'annonciateur de... Est-ce qu'on a écouté...
Ça, c'est peut-être une interlude.
Ah,
c'est quelque chose...
D'accord.
On verra.
On verra. Bah oui. Et ben, on te réinvitera avec plaisir.
Voilà.
Ouais. Le temps passe vite.
Le temps passe méga vite et il faut en profiter.
Très bien, très bien. Bah, merci beaucoup.
Bah, merci à toi, Christophe, et merci à Patricia.
Merci à Patricia,
la pour la régie et tout, la technique.
Merci, merci.
Merci pour l'invitation.
Et puis à bientôt. Alors à 17h30, Radio Esperanto avec les amis Guy et Hubert. En attendant, on va passer de la musique, une playlist, et voilà. Bah, à la semaine prochaine. Salut.
Alors, dang, 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 dang.